C'est 23.
Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le
Québec maintenant. Québec solidaire a déposé aujourd'hui un projet de loi pour permettre aux élus de visiter les organismes publics de la province, comme les centres jeunesse, les prisons ou les hôpitaux psychiatriques. La députée Christine Labrie est avec nous pour en parler. Madame Labrie, bonjour. Madame Labrie, pourquoi avoir déposé ce projet de loi-là? Qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire dans la situation actuelle?
Bien, écoutez, c'est qu'on a reçu plusieurs refus dans les dernières années à nos demandes de visiter certains établissements publics. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois pour visiter des centres jeunesse, par exemple, alors que c'est quand même le mandat que les citoyens nous ont confié comme élus de s'assurer de la qualité des services publics. Nous, on entend parfois des témoignages de personnes qui ont eu affaire à certains établissements ou qui y travaillent, qui nous racontent des choses sur ce qui se passe là ou sur l'état des installations, puis on veut aller vérifier de nos yeux pour pouvoir faire notre travail. Puis quand on nous le refuse, j'ai un problème avec ça parce que on en a besoin pour faire notre travail. Donc, l'objectif du projet de loi, c'est vraiment de baliser le droit de visite des députés des institutions publiques parce qu'en ce moment, c'est totalement arbitraire.
Bon, vous, personnellement, là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Avez-vous un cas précis à nous raconter?
Absolument. Moi, on m'a refusé de visiter le centre jeunesse dans les Laurentides, le centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac également, on m'a le refusé. Dans le passé, on a un collègue qui s'est fait refuser de visiter la prison Leclerc. Mon collègue Guillaume Clich-Rivard s'est fait refuser de visiter le centre jeunesse Cartier à Laval dans les dernières semaines. Alors que ce sont des endroits où on sait que les établissements sont vétustes. On sait que les conditions d'hébergement ne sont pas bonnes pour les jeunes qui y vivent, notamment. Donc, moi, ça me préoccupe, puis je pense que c'est notre responsabilité d'aller voir ça.
Madame Labrie, qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse là pour justifier ce refus-là quand vous demandez de visiter un établissement?
La réponse la plus fréquente, je vous dirais, pour un centre jeunesse, c'est que comme il y a des personnes mineures qui s'y trouvent pour des enjeux de confidentialité, on nous refuse l'accès. Moi, j'étais prête à entendre cette explication-là jusqu'à ce que je découvre dans la dernière année qu'Isabelle Bray, la conjointe du premier ministre, elle a eu accès dans les dernières années à aller visiter des jeunes dans un centre jeunesse et les a même rencontrés. Donc, j'ai de la misère à m'expliquer comment se fait-il que moi, dans le cadre de mes fonctions, je puisse pas y aller alors que à d'autres endroits, quelqu'un a une réponse positive. C'est pour ça que ça prend des balises qui sont claires, qui vont être uniformes à travers le Québec.
Et donc, vous avez la preuve de ça, là, que l'épouse du premier ministre a pu visiter alors qu'elle est une non-élue, là, essentiellement.
Absolument. Ça s'est passé en 2019. Dans son cas, il y en avait des traces sur les réseaux sociaux jusqu'en date d'hier. Je ne sais pas si ça y est encore aujourd'hui, mais on a bien eu connaissance de ça. Puis elle était très contente de sa visite puis de sa rencontre avec les jeunes. Mais moi, j'entends des témoignages de jeunes qui vivent des conditions d'hébergement déplorables dans les centres jeunesse. Je voudrais pouvoir aller voir ce qui se passe là et on me refuse.
Bon. À l'heure actuelle, là, vous déposez votre projet de loi. Quel est l'accueil des autres formations politiques, à commencer par la Coalition Avenir Québec?
Ben, j'ai senti que c'était plutôt tiède du côté du gouvernement ce matin, mais nous, on lâchera pas le morceau parce que c'est ça qui est attendu de nous, là, de la part des citoyens. On nous confie quand même la responsabilité de s'assurer de la qualité des services publics. Puis l'état des centres jeunesse est particulièrement intéressant parce que ça défrait la manchette ponctuellement là, les conditions d'hébergement des jeunes dans ces centres-là. Parfois, des employés témoignent que ce qui se passe là n'a pas d'allure. Moi, j'ai rencontré le collectif des jeunes placés de la DPJ, donc qui sont rendus adultes maintenant, qui m'ont raconté des choses horribles. Donc, c'est notamment après la rencontre de ce groupe-là que j'ai fait quelques demandes qu'on m'a refusées. J'ai un grand souci parce que ce sont des jeunes qui sont effectivement mineurs. Plusieurs d'entre eux n'ont pas vraiment de famille ou de proches pour les aider à faire valoir leurs droits. Donc, je pense qu'on a la responsabilité comme élus, nous, d'être là pour eux, de s'assurer qu'ils vivent dans des conditions qui sont dignes, qui sont des vrais beaux milieux de vie. Puis malheureusement, c'est pas toujours le cas.
Et les autres partis, comment ils réagissent?
Ben écoutez, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. En même temps, je suis pas mal certaine que eux aussi, ça leur est arrivé de se faire refuser l'accès à certains endroits dans le cadre de leur travail. Donc, j'espère qu'il y aura un accueil positif. Nous, on dépose un projet de loi. Il y aurait d'autres façons de procéder aussi. Ça pourrait être une directive ou quoi que ce soit, mais ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on arrête l'arbitraire. Parce qu'en ce moment, ça dépend de chaque établissement, selon la région, de décider oui ou non à chaque fois, si ça leur adonne de nous faire visiter. Ça peut pas fonctionner comme ça.
Et quels paramètres vous suggérez dans le projet de loi, là? Est-ce que vous pourriez simplement débarquer à tout moment du jour et puis dire « Salut, je m'appelle Christine Labrie, je suis députée de Québec solidaire, je m'en viens visiter, ouvrez-moi la porte ».
Nous, on propose un préavis de 10 jours. On veut pouvoir le faire, la visite en compagnie de quelqu'un qui connaît bien les lieux, évidemment, là, pour pouvoir poser nos questions. Donc, on demande pas à arriver là à l'improviste. Là, on comprend que ça doit s'organiser d'avance. On est très souple par rapport à ça. Mais je voudrais pouvoir le faire en compagnie, par exemple, d'un journaliste ou d'un expert. Je pense notamment à des situations où on voudrait faire des prélèvements de moisissures, de qualité de l'air. Ça pourrait être utile dans le cadre de notre travail.
Ça me semble une idée qui est porteuse, Mme Labrie, parce qu'on regarde là qu'est-ce qui s'est produit dans les derniers temps. Je pense que c'est un des gros dossiers de l'année 2024, notamment les conditions dans les centres jeunesse. Et là, ben, on a des révélations. La presse a été très, très fort dans ce dossier-là. Toute la question du Mont-Saint-Antoine, la question du centre jeunesse de Laval. Vous avez évoqué tantôt, là, il y a un moment, les témoignages des employés également, des gens qui trouvent les situations très, très difficiles à vivre. Il me semble justement que si on avait des droits de visite, si nos élus avaient des droits de visite, peut-être qu'on aurait éteint quelques feux avant qu'ils soient vraiment très embrasés.
Bien, je pense que vous avez raison. Puis d'ailleurs, vous avez nommé le Mont-Saint-Antoine. Je tiens à souligner qu'eux ont accepté que je le visite, cet établissement-là. Ce que j'ai vu là était absolument scandaleux comme condition d'hébergement. Je les remercie d'avoir accepté de nous faire visiter, même si, en toute honnêteté, il n'y avait pas de quoi être fier de la qualité de ces installations-là. Mais nous, on est là justement pour améliorer les choses, pour aider les établissements à se faire entendre, pour avoir des moyens pour rénover les lieux, par exemple, ou pour déployer des meilleurs services. Donc, je les remercie, eux, d'avoir accepté. Puis, je pense que le public comprend bien, effectivement, que si on invisibilise ce qui se passe dans ces milieux-là, on ne les réglera jamais, les problèmes.
Madame Labrie, en terminant, là, je regarde une situation comme celle du Mont-Saint-Antoine. Puis on a eu des descriptions des lieux. Là, vous venez de l'évoquer, c'était absolument épouvantable que des jeunes, que des personnes vivent dans un environnement comme celui-là. Puis, je ne vous demanderai pas de faire la genèse de toute la problématique là-dedans, mais comment croyez-vous qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'au Québec, on ait permis qu'une situation comme celle-là existe?
Bien, on pourrait parler plus largement de l'entretien des infrastructures au Québec. C'est certain que quand les gouvernements réfléchissent dans le cadre de leur mandat de 4 ans, ils vont avoir tendance à pelleter par en avant tout ce qui est entretien des infrastructures. Quand les gouvernements font une obsession, par exemple, du déficit zéro, puis c'est le cas avec les libéraux qui ont adopté des mesures d'austérité, c'est certain que ça a pelleté par en avant des travaux d'entretien qui auraient été essentiels pour des bâtiments publics, puis on le voit dans nos écoles, l'état lamentable dans lequel se sont retrouvées certaines de nos écoles, mais c'est vrai aussi pour les centres jeunesse. Mais comme il y a moins de monde qui voit ce qui se passe dans un centre jeunesse, ça peut dégénérer longtemps avant que ça passe, avant que ça devienne sur le radar. Donc, moi, ce que je vois, là, c'est que les gouvernements ont leur tendance à manquer de vision à long terme. Ça fait en sorte que des choses comme celles-là sont négligées.
Christine Labrie, vous êtes députée solidaire de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'administration gouvernementale. Merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
maintenant. Aujourd'hui et demain se déroule un sommet à Bruxelles en Belgique où les chefs des 27 États membres de l'Union européenne discutent de la nécessité de fournir rapidement des munitions et une aide militaire à l'Ukraine. Là, on le sait que c'est de plus en plus difficile pour l'Ukraine, surtout depuis que le financement américain est suspendu. On ne sait pas encore si le Congrès approuvera ou pas une aide de 60 milliards de dollars. Donc, beaucoup de craintes en Europe sur la suite des choses. J'en parle avec Justin Massy, qui est co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur agrégé de sciences politiques à l'UQAM. Professeur Massy, bonjour.
Bonjour.
Professeur Massy, il y a quelques jours, le leader hongrois Viktor Orban, après une visite aux États-Unis, a déclaré que Donald Trump lui avait dit que s'il était élu président des États-Unis en novembre prochain, eh ben, il n'y aurait pas un sou supplémentaire qui serait versé à l'Ukraine. Évidemment, en Ukraine, on a accueilli cette nouvelle-là avec un peu de stupeur. Est-ce que vous pensez que les Européens craignent profondément ce scénario?
Je pense qu'une prise de conscience progressive, un peu trop lente, mais un peu plus qu'à Ottawa, disons qu'au Canada, où ça semble pas avoir percolé que le président américain, non seulement il dit qu'il va pas aider l'Ukraine, mais il a dit aussi, l'ancien président, je devrais dire américain, a dit aussi qu'il invitait une agression russe contre les alliés qui dépensent pas assez. Donc c'est quand même assez gros là, dans la remise
en question. Ce qui, soit dit en passant, concerne le Canada, qui ne respecte pas le seuil de 2% de son produit intérieur brut dans les dépenses militaires.
Exactement. Puis non seulement on ne le respecte pas, on n'a aucun plan de le respecter. Et même le parti d'opposition principale dit qu'il va tendre vers atteindre peut-être un jour 2%, mais sans s'y engager formellement. Alors, je pense qu'en Europe, il y a une prise de conscience. Et la plus grande prise de conscience a été faite, bien sûr, à Paris, par le président Macron, qui a quelques jours maintenant, une dizaine de jours, lancé cette idée là qui fait beaucoup jaser en Europe, que ce serait peut-être pas exclu d'envoyer des troupes françaises en Ukraine pour aider les Ukrainiens dans le contexte difficile dans lequel ils se retrouvent. Présentement, là, les troupes manquent tellement de munitions qu'ils ne tirent plus d'artillerie, ils n'en ont juste plus, et ils utilisent plutôt des drones pour essayer de se défendre contre l'assaut russe. Donc vraiment, là, c'est extrêmement difficile pour les Ukrainiens sur le champ de bataille.
Professeur Massy, est-ce que c'est sérieux cette possibilité que les Français envoient vraiment des soldats sur le sol ukrainien?
Je pense que de manière seule, non. Pas de manière, disons, ouverte, comme nous on l'entend, là, des soldats d'infanterie qui vont combattre aux côtés des Ukrainiens. C'est pas ça dont il est question. Il faut quand même réaliser qu'il y a des troupes étrangères en Ukraine. Il y a des forces spéciales qui aident soit l'acheminement de l'aide, soit à opérer certaines capacités militaires ou équipements là, qu'on leur a fournis. Mais des opérations spéciales, ça, comme ça le dit, on les déclare pas, c'est clandestin. Donc, on peut présumer qu'elles sont là, mais on va jamais l'officialiser. Là, d'envoyer des troupes, ce qui est peut-être possible, c'est que ça soit pour les aider à soutenir sur des équipements ou assurer la protection des frontières ou donner des conseils. Mais je pense pas que la France le ferait de manière unilatérale.
Autonome, voilà.
Non, mais il y a beaucoup de pays qui commencent à se rallier à cette idée-là. C'est plus juste le président Macron. Il y a bien sûr les Pays-Bas, la Pologne qui ont donné leur appui en disant il faut pas l'exclure. La Finlande s'est joint, la République tchèque également. Alors on voit qu'il y a une prise de conscience parce que la réalisation première, c'est pas seulement que possiblement Donald Trump pourrait être élu et mettre fin à l'aide, c'est que sur le champ de bataille, l'Ukraine non seulement est pas en voie de gagner, c'est envisageable qu'elle perde. Et là, il y a une perspective, une prise de conscience de quelles seraient les conséquences si la Russie réussissait à imposer sa volonté sur l'Ukraine, et ça remettrait grandement en question la sécurité européenne, et ça coûterait beaucoup plus cher aux Européens pour se défendre contre une future agression. On l'a vu aujourd'hui, la Russie qui dit qu'elle va augmenter encore plus le nombre de divisions militaires qu'elle veut mettre sur pied cette année, mobiliser encore des centaines de milliers de nouveaux soldats pour continuer l'agression. C'est pas un conflit qui va s'arrêter bientôt, là. Peu importe ce qu'on aimerait qu'il y ait des négociations de paix, là, la Russie veut pas négocier.
Professeur Massy, il y a peut-être une source de financement là, qui pointe à l'horizon si, par exemple, le Congrès américain n'avalise pas cette décision de débloquer 60 milliards de dollars. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, ben écoutez, il faut saisir carrément les avoirs russes dans les banques européennes, dans les banques américaines qui sont gelées à l'heure actuelle, confisquer cet argent-là et avec ça, financer l'effort de guerre ukrainien. Est-ce que, selon vous, c'est une possibilité réelle?
Bien, on parle d'environ 300 milliards de dollars, dont le deux tiers là, serait en Europe, dans les banques européennes, dont en Belgique en grande partie. Pour les juristes, ça semble être illégal ou du moins contrevenant au droit international de le saisir entièrement et de l'utiliser et de donner à l'Ukraine. Ça pourrait créer des précédents. La discussion qui est présentement en train d'évoluer en Europe, c'est possiblement utiliser les profits générés par cet argent-là, qui est placé, bien sûr, et prendre des profits et d'utiliser ces profits-là pour aider l'Ukraine. Donc, à chaque année, il y en aurait et on pourrait le soutenir. Puis là, ça serait autour de 3-4 milliards de dollars environ là, qui pourraient être disponibles pour aider l'Ukraine. Donc, beaucoup moins, là, bien sûr, que le 300 milliards en tout qui est disponible parce que il semble avoir beaucoup de réticence. Je suis pas juriste, mais dans le droit international, là, de saisir carrément cet argent-là.
Y arrive quoi si jamais les Américains ne débloquent pas le 60 milliards là, qui est dans la balance à l'heure actuelle?
Ben, il arrive qu'on le voit avec Avdiivka qui était perdu aux mains des Russes parce que les Ukrainiens ont plus de munitions. Heureusement, les Européens, dont la République tchèque, a fait l'initiative de trouver 800 000 obus là, pour les donner, mais il faut que ça soit financé. Là, les Européens, certains se sont prêtés volontaires, dont l'Allemagne qui annonce de l'argent, le Canada aussi, mais le Canada en a offert autant que la Lituanie, là, pour vous dire, un pays minuscule qui est gros comme Laval environ en termes de population, donc on n'est pas au rendez-vous. Donc, il y a une certaine prise de conscience, mais même l'aide européenne, quand on regarde les chiffres qui sont annoncés pour 2024 jusqu'à présent, c'est 20 milliards de dollars. C'est beaucoup moins que ce que les Européens ont donné dans les deux dernières années. Donc, on n'est pas non plus en augmentation de l'aide pour cette année à venir par rapport à ce qui était offert jusqu'à présent, notamment parce qu'on n'a plus le stock. C'est comme le Canada, on a donné 8 chars d'assaut et 4 artilleries, mais on n'en a pas acheté plus. Donc, on ne peut pas en donner plus. Et c'est ça le problème, parce qu'on a tellement sous-investi dans les forces armées que quand on en a besoin, ben on n'en a plus à notre disponibilité. Ce qui fait que ça va être extrêmement difficile, je pense, pour les Européens, dans le contexte d'un désengagement américain, de compenser à eux-mêmes. Et je pense que c'est ça qui crée beaucoup de crainte, donc, présentement en Europe.
Et là, il faut voir que les Européens aussi réussissent à s'entendre. Et on sait que 27 pays, là, ils pensent pas tous de la même façon.
Non seulement ils pensent pas tous de la même façon, mais il y en a des particulièrement hostiles, dont
comme la Hongrie,
vous le mentionnez.
Voilà.
Exactement. Et il y aura des élections aussi qui vont suivre en Allemagne éventuellement l'année prochaine. Et il y a des contextes politiques. On l'a vu quand la France là, a fait son débat à l'Assemblée nationale. Tous les partis là, de la droite notamment et de la gauche, l'extrême gauche, ont voté contre l'aide que la France veut donner à l'Ukraine. Donc, ça divise les sociétés parce que ça fait longtemps. Et au lieu d'avoir donné beaucoup d'aide au début, quand il y avait toute l'émotion, le sentiment de solidarité autour de l'Ukraine, on est allé au compte-gouttes, graduellement, parce qu'on avait peur, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se produire. On a perdu le momentum d'avoir investi dès 2022 pour qu'aujourd'hui, l'Ukraine soit en meilleure posture. Alors là, faut convaincre les opinions publiques qui sont réticentes, qui sont tannées, qui aimeraient ça que la guerre se mette fin. Mais d'un autre côté, quand on regarde les sommes qui sont données à l'Ukraine, c'est une infime coût par rapport au coût des guerres qu'on a menées en Irak, en Afghanistan, en Libye, dans les autres conflits, la guerre du Golfe également. Donc, quand on le souhaite, quand il y a une volonté politique, on est capable de faire cette aide-là. Là, ça semble être à diviser davantage les capitales européennes et les partis politiques, incluant ici au Canada. On ne voit pas cette volonté-là, malgré les grands discours qu'on va l'aider coûte que coûte et aussi longtemps que ça durera. Les chiffres sont pas au rendez-vous.
Il y a clairement une fatigue hein, dans l'opinion publique occidentale. Justin Massy, vous êtes co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur agrégé de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, au revoir.
Bonne journée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
maintenant. On ne compte plus le nombre d'individus violents ayant des problèmes psychiatriques qui s'attaquent à des gens parce qu'ils sont en liberté au lieu d'être dans un hôpital psychiatrique. Et quand ils commettent un meurtre ou une agression très, très sévère, eh ben ils sont souvent déclarés non criminellement responsables en raison de leur état mental. Pour le public, tout ça est un peu inquiétant. Qu'en pensent les spécialistes? Eh ben on va le savoir en discutant avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale. Philippe Pinel, docteur Chamberlain, bonjour.
Bonjour.
Docteur Chamberlain, comment ça se passe dans un cas comme celui-là? Là, on a vu cet incident là, qu'on a appris cette semaine. Je dis incident, le mot est très faible. Là. C'est une attaque absolument horrible. 4 femmes qui ont été frappées à coups d'une matraque de fer. Et là, ben, on apprend que l'homme qui a été arrêté, c'est un récidiviste. Il souffrirait de problèmes de santé mentale. Et là, ben, on se dit, coudonc, est-ce qu'il faut que ces gens-là aient en prison? Oui, non. Comment ça se passe concrètement?
Ce que ça se passe concrètement, c'est que c'est un moyen de défense que la défense peut utiliser de plaider la maladie mentale. Mais c'est assez restrictif. Il faut rentrer dans le cadre de l'article 16 du Code criminel. Donc, il faut que la personne ne soit plus en mesure de comprendre ce qu'elle faisait ou de savoir que c'était mal. Fait qu'on comprend qu'il y a des maladies psychiatriques qui amènent des psychoses où les gens peuvent halluciner des choses, entendre des choses, voir des choses qui sont pas là, ou surtout avoir un délire. Parfois, un délire de persécution, ils se sentent menacés par des personnes qui sont absolument pas menaçantes. Donc, on peut avoir des maladies qui font en sorte qu'on ne sait plus que ce que l'on fait, c'est mal, par exemple, si on pense qu'on se défend, ou qu'on sait même plus qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est trop désorganisé. Et à ce moment-là, la personne n'est pas reconnue coupable. Elle est reconnue non responsable. Elle tombe sur la responsabilité de la commission d'examen. Et là, c'est très particulier parce qu'il n'y a pas de temps avant que la commission d'examen libère cette personne-là. c'est une question de savoir est-ce qu'elle est dangereuse ou non. Mais dès qu'elle n'est plus dangereuse, la commission est obligée de la libérer. C'est ce qui fait qu'il y a des portes tournantes dans ces cas-là parfois.
Mais c'est quand même un exercice délicat, là, évaluer la dangerosité d'une personne. Une personne peut paraître non dangereuse à la commission, on la laisse aller et puis trois mois, quatre mois après, la personne peut redevenir, pour toutes sortes de raisons, extrêmement dangereuse pour les citoyens.
Effectivement. Et c'est là que je dirais que le bas blesse un peu. Parce qu'on peut avoir différentes définitions de ce qu'est une dangerosité. La loi est très claire. Si la personne ne présente pas un danger sérieux pour la population, elle doit être libérée. Fait que c'est quand ils ont quand même mis la barre très, très libérale, j'ai envie de dire, très lousse. Par contre, faut voir qu'est-ce qu'on entend par un danger sérieux pour la société. Moi, j'étais de ceux qui disaient que si quelqu'un a commis un meurtre parce qu'il était malade, mais il devrait rester sous la commission à vie. Parce que s'il redevient malade, il risque de faire ça. Tant qu'à moi, c'est un danger sérieux. C'est sûr que la très grande majorité des crimes, c'est pas des très gros crimes. Ça peut être des méfaits, briser une vitrine ou un voie de fait simple. Fait qu'à ce moment-là, on est plus tolérant avant de laisser sortir la personne. Mais ça dépend vraiment de la commission d'examen et de ceux qui vont présider cette commission-là au moment où le patient en parle.
Ouais, parfois, c'est pas des gros crimes à première vue jusqu'à temps qu'on en soit la propre victime. Ça, dans ce temps-là, on trouve
absolument.
Souvent que ça devient un gros crime, là.
Absolument, parce que souvent, on en a reçu. Moi, j'ai quelqu'un qui est resté ici 10 ans pour avoir cassé une vitre. On s'est rendu compte qu'il était extrêmement malade, extrêmement dangereux, mais on ne sait pas le soigner. C'est parce qu'il avait cassé une vitre qu'on s'est aperçu qu'il était comme ça. Oui, effectivement, le premier crime était peut-être à position de quelque chose de plus dangereux. C'est pour ça qu'il faut les évaluer.
Bon, comment ça se passe, là? Par exemple, quelqu'un est déclaré, là, non dangereux à partir de tel moment et puis on lui rend sa liberté. Est-ce que c'est pour toujours? Il y a des contrôles par la suite? Est-ce qu'il va être réévalué à tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois ou peu importe?
Mais c'est progressif. Au départ, les patients, quand ils arrivent ici, en évaluation, par exemple, ils vont être en détention stricte, tant qu'on ne le sait pas. À partir du moment où le tribunal les évalue, ou la commission d'examen les évalue, là, il y a différents niveaux. Ils peuvent demeurer détenus, mais avec des possibilités de sortie pour qu'on évalue comment ils vont, mais ils sont encore officiellement détenus dans l'hôpital. L'étape d'après, c'est d'être libéré avec des conditions. L'étape d'après, c'est d'être libéré inconditionnellement. Et quand ils sont libérés inconditionnellement, on n'a plus aucun lien sur eux.
Bon, dites-moi, à votre avis, là, notre système, Dr Chamberlain, là, vous êtes psychiatre, vous êtes à l'Institut national de psychiatrie légale de Philippe Pinel, vous êtes un observateur privilégié de la situation. Est-ce que notre système fonctionne? Est-ce que notre système permet de protéger la population?
Mais le système fonctionne dépendant de quel point de vue on le voit. Si je donne mon opinion, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que je suis trop rigide, trop sévère. Il y a, même avec le système qu'on a actuellement, il y a encore des groupes de pression qui trouvent ça trop sévère pour les patients. Et moi, je serais d'avis, un, que même avant qu'ils tombent sur la commission d'examen, qu'on puisse faire un peu de prévention, que tous les patients qui risqueraient d'être dangereux, qui ne sont pas capables de demander pour eux-mêmes d'être évalués, qu'on puisse les évaluer avant qu'ils soient dangereux, première des choses. Puis pour ceux sur la commission, je suis pas sûr que je gardais le critère d'un danger sérieux pour la société, qu'on les libère inconditionnellement. Les libérer avec condition de prendre leur médication puis de pas consommer de drogue, c'est pas des grosses conditions tellement lourdes pour quelqu'un qui assume sa maladie.
Bon, on regarde la situation au Québec. Ailleurs au Canada, comment ça se déroule? En Ontario, par exemple.
En fait, c'est le même système parce que ça relève du code criminel. Donc, ça s'applique de la même façon au Canada. C'est les mêmes lois. Par contre, dans le reste du pays, ils en ont beaucoup moins. Ils utilisent cette non-responsabilité-là seulement pour les crimes les plus graves. Donc, quand ils passent devant la commission d'examen, c'est comme, j'ai envie de dire, plus sérieux. Les procureurs de la Couronne sont là systématiquement. Des témoins peuvent être entendus. Le décorum est beaucoup plus important. Tandis qu'ici, le temps consacré à évaluer quelqu'un, c'est une heure et demie en moyenne. Dans le reste du pays, c'est beaucoup plus long.
Est-ce qu'on manque d'avocats de la Couronne dans des dossiers comme ceux-là?
Mais je pense qu'on manque d'avocats de la Couronne un peu partout. Là. On entend qu'ils sont débordés par les causes. L'arrêt Jordan fait qu'il y a des causes complètes qui sont remises parce qu'ils sont débordés. Fait qu'effectivement, dans les dossiers de commission d'examen, on les voit pas si souvent que ça.
Parce que moi, j'ai l'impression là, que beaucoup de gens qui nous écoutent à l'heure actuelle qui commencent à être inquiets parce que des affaires comme celle-là, il me semble qu'il y en a de plus en plus. Puis tout à coup, ça devient une question de confiance de la population. Il faut que la population ait confiance dans ses institutions. Et là, si on voit des attaques comme celle-là, là, vous voyez le cas qui s'est produit à Verdun. On a cette policière aussi là qui a été frappée récemment. Tout ça, ça fait en sorte que j'ai l'impression que ça provoque, ça suscite un doute profond dans la population sur la manière dont notre système est mené.
Vous avez tout à fait raison. Les gens qui ne sont pas identifiés, il n'y a aucun moyen de faire de la prévention, on attend qu'ils soient dangereux. Les gens sur commission d'examen, il y a même des mouvements qui disent, ben, s'ils sont à l'hôpital, c'est des patients, c'est plus des détenus, quand la commission d'examen est très claire que c'est des détenus puis que ces gens-là ont perdu des droits. Ça devient de plus en plus difficile de faire de la prévention avec ces personnes-là qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et je le répète, la majorité des patients psychiatriques ne sont pas plus dangereux que la population normale. Ils sont même plus souvent victimes. Mais quand ils sont en psychose, quand ils ne sont pas stabilisés, là, ils peuvent l'être. Et ils sont dans, et c'est eux-mêmes qui souffrent de cette situation-là aussi, si on ne peut pas les aider.
Une situation extrêmement délicate. Docteur Chamberlain, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Bonne journée. Le docteur Gilles Chamberlain est psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
maintenant. On le sait, il y a plusieurs contentieux entre les gouvernements du Québec et du Canada. Il suffit de penser au financement des soins de santé, à l'immigration. Mais un autre de ces contentieux-là, c'est la protection du caribou. On dirait depuis plusieurs mois que Québec et Ottawa ne voient pas ça de la même façon. Il y a eu quelques prises de bec là, entre les ministres responsables. Alors, qu'en est-il du caribou et pourquoi c'est important d'en parler? Ben, j'en discute avec Martin Hugues Saint-Laurent, qui est professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Professeur Saint-Laurent, bonjour.
Bonjour, M. Quentin.
Professeur Saint-Laurent, je viens de le mentionner, c'est vrai qu'on parle beaucoup du caribou au Québec. Les articles rebondissent à intervalles réguliers. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Québec, Ottawa, on semble pas voir les choses de la même façon. Je vais vous poser une question qui, moi, me revient fréquemment en tête. Pourquoi c'est important, l'avenir du caribou?
C'est une excellente question qui a plusieurs réponses, donc j'espère que vous avez du temps. C'est important parce que l'habitat du caribou, c'est l'habitat de plusieurs autres espèces animales qui ont peut-être moins d'éclairage médiatique que le caribou, puis qui ont peut-être des rôles importants à jouer, que ce soit dans le contrôle d'espèces parasitaires, de maladies ou autres, que ce soit parce qu'elles sont des proies importantes pour d'autres espèces, que ce soit aussi parce qu'elles ont une importance culturelle ou sociale. Le caribou lui-même a une importance traditionnelle importante, là, élevée pour les Premières Nations, que ce soit par la chasse, par toute, je dirais, la culture, la spiritualité de différentes communautés autochtones au Québec. Mais il y a une autre facette à ça. Si on protège l'habitat du caribou, on protège aussi plusieurs fonctions écologiques importantes. Donc, le caribou est comme un canari dans la mine. En protégeant le caribou, on protège la capacité des forêts à réguler le climat, à capter le carbone, à filtrer l'eau, filtrer l'air.
Mais de quelle façon? De quelle façon, professeur Saint-Laurent?
Ben, parce que ces vieilles forêts-là ont des capacités de stockage de carbone qui sont différentes des jeunes plantations. C'est des forêts qui sont déjà dans un équilibre, je dirais, climatique. Et parce qu'elles vont stocker dans le sol énormément de carbone. Donc, pour la régulation du climat, c'est important. Mais il y a une autre facette qui est super intéressante à l'intérieur de votre question, c'est que le caribou est légalement désigné. Il y a des lois fédérales, des lois provinciales qui nous obligent à prendre action pour protéger son habitat puis assurer son rétablissement. Donc, c'est un drôle de message à envoyer que de ne pas respecter les lois qui gouvernent nos nations. Si c'est ça, vous imaginez le désordre social dans lequel ça pourrait nous plonger si on pouvait se permettre de choisir la loi qui nous importe. Alors, peut-être que vous et moi, on déciderait, par exemple, de ne pas respecter la loi sur l'impôt, tiens. Mm-hmm. Donc, il y a des lois, il y a des engagements éthiques, moraux qu'on a pris à l'échelle internationale. Puis, techniquement, il faudrait que les bottines suivent les babines.
Bon, parce qu'on le sait, là, le nombre de caribous est en chute marquée au Québec depuis quoi, une vingtaine d'années, à peu près même 30 ans. Là, quoi, il y avait en 1990 plus de 1,3 million de caribous au Québec. Et là, on parle de quoi, environ 200 000 animaux, 200 000 bêtes?
Ça dépend des troupeaux qu'on regarde, puisque les caribous, hein, il y a une espèce de caribou qui draine au monde, là, les reines en Eurasie, les caribous en Amérique du Nord, pour mettre les reines du Père Noël là-dedans, c'est toute la même espèce. Mais quand on est au Québec, il y a une sous-espèce, ce qu'on appelle le caribou des bois, qui se divise en trois grands groupes. Les caribous qui vivent en montagne, donc le caribou montagnard qu'on a en Gaspésie, par exemple, et dans les monts Torngap, ça c'est une poignée d'individus. Les caribous migrateurs, hein, les grands troupeaux de la rivière Georges, rivière aux Feuilles, qui ont déjà compté 1 million d'individus puis qui ont descendu de façon drastique à quelques dizaines de milliers. Puis le caribou qui nous intéresse beaucoup dans les médias ces temps-ci depuis quelques années là, puis qui est à l'origine du bras de fer entre le fédéral et le provincial, c'est le caribou forestier. Donc un caribou qui vit à petite densité, à faible densité, dans la forêt, puis qui est menacé par la coupe forestière, puisque ça va déstabiliser la relation qu'il a avec ses prédateurs. Quand on coupe la forêt, on génère plus de nourriture pour ses prédateurs, qui deviennent plus efficaces, plus abondants, puis qui vont abattre plus de caribous.
Et pourquoi
notre aménagement forestier déséquilibre le système, si je peux me permettre.
Pourquoi Québec et Ottawa ne s'entendent pas sur le caribou? Quel est le point de friction?
Ça, c'est une super bonne question. Le point de friction, je vous dirais, c'est que le caribou cherche exactement la même chose que l'industrie forestière, à savoir des vieilles forêts denses, peu perturbées. L'industrie trouve sa ressource première, puis le caribou il trouve un habitat éloigné des prédateurs, fait que c'est gagnant pour lui. L'enjeu qu'on a, Québec-Canada, maintenant, c'est que le Canada n'a pas juridiction directe dans les provinces et territoires, sauf sur les terres fédérales. Mais le Canada a la loi sur les espèces en péril dans laquelle il y a un filet de sécurité d'inscrit. Et le Canada peut et en fait doit protéger l'habitat des espèces en péril, puis peut exercer de la pression sur les provinces et territoires si ces juridictions-là ne font pas le travail. Là, de toute évidence, le Québec ne fait pas le travail. C'est démontré depuis plusieurs années par plusieurs études indépendantes, tant fédérales qu'universitaires. C'est même reconnu, en fait, dans la revue littérature du gouvernement du Québec lui-même que le caribou décline à cause de la non-protection des forêts nature. Et là, ben, il y a une petite game politique qui s'installe, à savoir un bras de fer où le fédéral ben, dit « Moi, je veux faire appliquer ma loi, puis j'ai la preuve que vous ne faites pas le travail de protection de l'habitat du caribou. » Le Québec qui dit « Ben, la faune terrestre, c'est de compétence provinciale, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. » Le Canada qui dit « Ben, moi, j'aimerais peut-être qu'on trouve un point d'entente négocié. » Le Québec qui dit « Ben, on va voir, on va vous amener une stratégie, puis on verra quand elle va arriver. » Puis on joue dans ce mauvais film-là. Depuis plusieurs années, depuis l'élection de la CAQ, entre autres.
Ben c'est ça. Donc, si je vous comprends bien, le gouvernement actuel du Québec, lui, a plus à cœur l'intérêt de l'industrie forestière.
C'est sûr que les caribous votent beaucoup moins que les gens dans les régions ressources. Puis, il faut comprendre que l'idée, c'est pas juste de sauver le caribou puis de sacrifier l'économie des régions forestières. C'est peut-être de trouver une nouvelle manière de voir. Puis, avec l'étape de réflexion sur l'avenir des forêts, avec le cri du cœur du forestier en chef qui dit qu'on peut plus continuer de couper la forêt de la même manière qu'on le fait, avec les feux forestiers qu'on a vus, par exemple, l'été dernier, puis rien ne nous laisse croire que l'été 2024 va être plus tranquille sur le plan des feux. Moi, je vous dirais que le moment est venu de revoir notre relation avec notre forêt, d'accompagner les travailleurs sylvicoles, les travailleurs forestiers dans une foresterie 2.0, et aussi de les accompagner peut-être dans certaines familles de requalification pour ceux qui décideraient de quitter le milieu, puisque peut-être on ne pourra pas maintenir cette pression-là sur la forêt tout en conservant le caribou.
Bon, vous avez évoqué là les feux de forêt, puis bon, par conséquent, par la bande, les changements climatiques. On le sait, là, il y a des caribous qui ont été aperçus dans le secteur d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'habitude, les caribous sont beaucoup plus au nord, donc là aussi, c'est inquiétant.
Je dirais pas que c'est inquiétant. Hein? On parle d'animaux qui ont des domaines vitaux de 300, 500, 800, 1000 km² par animal. Donc, c'est normal de les voir un peu partout. Parfois, les jeunes individus sont plus prompts à faire des explorations, je veux dire, à l'extérieur de leur territoire, à l'extérieur de leur domaine vital. Puis le caribou, hein, reculé il y a 150 ans, on avait du caribou jusque dans la Nouvelle-Angleterre puis dans les Maritimes. Donc, que les caribous descendent un peu plus au sud, peut-être en fuyant des prédateurs, peut-être en fuyant des sources de dérangement ou en ayant trouvé des corridors de déplacement facilités dans la neige. C'est pas complètement impossible de les voir aussi bas qu'Alma. C'est sûr que c'est une belle surprise. C'est sûr qu'on souhaite que les gens soient respectueux de ces animaux-là puis les poursuivent pas. Mais je vous dirais que j'y vois pas là un symptôme des changements climatiques ou un symptôme de quelque chose d'alarmant loin de là.
OK. C'est les feux de forêt, en revanche, là, c'est une autre histoire.
Les feux de forêt, ben, la faune est habituée ça fait depuis la dernière glaciation que la faune co-évolue avec un environnement dans lequel il y a des feux, particulièrement au nord du Saint-Laurent. Fait que c'est pas eux, c'est pas tant un danger pour les espèces à grande capacité de déplacement comme le caribou. Là. Toutefois, c'est sûr que si le feu ramasse les derniers massifs de vieilles forêts qu'il y avait pour les caribous, ben ça laisse un caribou sans trop de maison. Et ça, c'est difficile. Mais on a fait une étude récemment là, qui est actuellement en prévision. Il montre que l'impact des feux dans l'habitat du caribou n'a pas drastiquement augmenté le niveau de perturbation dans la quasi-totalité des arbres du Québec. Donc, en fait, là, ce que ça montre, c'est qu'à l'exception de certaines populations dans le nord-ouest du Québec, là, dans la région de Chibougamau, par exemple, à part certaines populations spécifiques, ça n'a pas changé grand-chose dans l'habitat du caribou. Ça a peut-être plus changé de choses dans l'approvisionnement des industriels forestiers. Ce qui fait que se cacher derrière les feux pour retarder la stratégie caribou, là, c'est quelque chose scientifiquement profondé. Là.
Merci beaucoup, professeur Saint-Laurent. Bonne journée. Martin Hugues Saint-Laurent est professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski.
C'est 23.